Le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la sublime communauté, je prends refuge jusqu'à l'éveil. Par ma pratique du don et des autres vertus, puisse-je réaliser l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres.
On va commencer par un petit temps de méditation. Donc je rappelle brièvement les points importants de la méditation. Le premier point, c'est, on dit, amener le corps dans l'assise. Ça consiste à avoir une posture correcte. C'est ce qu'on appelle une posture correcte, c'est-à-dire avec le dos bien droit et tout le reste du corps bien détendu. Il s'agit en fait essentiellement de relaxation. On laisse les muscles du corps se relâcher tranquillement. On laisse tomber nos préoccupations. On est simplement assis sur notre coussin et on se relaxe. Certains maîtres disent qu'on devrait être aussi détendu en méditation que si on était en train de dormir. Mais sans dormir, c'est ça le point crucial. Aussi détendu que si on était en train de dormir, mais sans dormir. Ensuite, le deuxième point, c'est on amène l'esprit dans le corps. Amener l'esprit dans le corps, ça veut dire s'autoriser à être ici et maintenant. Laisser tomber nos préoccupations du futur ou les regrets de ce qui s'est passé. Simplement être dans l'ici et maintenant. Parce que c'est la seule chose dont on peut faire l'expérience. On ne peut pas faire l'expérience du passé. On peut s'en souvenir. On peut y penser, mais on ne peut plus en faire l'expérience. On ne peut pas non plus faire l'expérience du futur. La seule chose dont on peut faire l'expérience, c'est ce qui se passe ici et maintenant. Instant après instant. On observe les phénomènes, mais on ne s'agrippe à rien, on les laisse défiler. Sans les bloquer, sans s'y attacher. On laisse passer, on laisse défiler les phénomènes. On demeure dans l'instant présent, à chaque instant. Et si on a besoin si on a besoin d'un point d'ancrage, on peut utiliser la respiration, poser une partie de notre esprit sur la respiration au niveau du bas-ventre, au niveau des narines. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de penser « je suis en train d'inspirer, d'expirer ». Simplement, on s'efforce simplement de ressentir la respiration, tout en ayant conscience de tout ce qui nous entoure. Et ça, c'est ce qu'on appelle « amener l'esprit dans le corps ». Et enfin, le troisième point, on dit « amener l'aisance dans l'esprit ». Ça consiste simplement à s'autoriser à se sentir bien. De voir que tant qu'on demeure dans l'instant présent, dans cet espace, on a un espace de vacances dans lequel on peut se sentir bien, à l'aise, naturel. On constate cet espace de vacances dans lequel on se sent bien. Et c'est ce qu'on appelle amener l'aisance dans l'esprit. Continuer l'entraînement de l'esprit. Donc la dernière fois, on a vu le troisième point. Et donc je suis toujours aussi à la bourre dans le programme. C'est-à-dire, si on voulait couvrir tout l'enseignement jusqu'à juin, il va falloir que j'accélère un petit peu. Donc, en gros, là, ce soir, on va voir le quatrième point qui est comment intégrer tous les aspects de l'entraînement de l'esprit à la vie. Et puis, le cinquième point, c'est comment évaluer, comment évaluer que notre pratique s'effectue correctement et comment évaluer les progrès de la pratique. Ça va assez vite. Et puis, on essaiera de faire le sixième et le septième point la prochaine fois, mais ça aussi, ça va très très vite. Alors, le quatrième point, en fait, c'est un... L'entraînement de l'esprit, le Jung, a la prétention d'être, donc, d'intégrer tous les aspects de notre vie au chemin, y compris au moment de notre mort. Le moment de la mort pour un bouddhiste, c'est un moment qui est très particulier, enfin particulier pour tout le monde, mais c'est-à-dire on ne le voit pas comme quelque chose. On médite beaucoup sur la mort, on réfléchit beaucoup sur la mort dans les enseignements bouddhistes parce que on dit que celui qui sait vivre sait mourir. Celui qui sait mourir sait vivre. Apprendre à vivre, c'est apprendre à mourir, et apprendre à mourir, c'est apprendre à vivre. Le moment de la mort, c'est un moment qui est particulier parce que, en fait, on dit qu'on va être amené, on va nous retirer le tapis sous les pieds. On va nous enlever tout ce dont on est identifié, mais que justement, c'est une opportunité pour découvrir qu'est-ce qu'on est au-delà de ça. On est invité en fait à découvrir qu'est-ce qu'on est au-delà de tout ce, compose notre existence actuelle et qu'est-ce qu'il y a au-delà de ça. Le bouddhisme affirme qu'il y a une vie psychique, qu'il existe une vie psychique post-mortem, que la mort n'est pas une fin en soi, c'est la mort du corps. Le corps n'est plus un soutien valide pour la conscience, mais le bouddhisme affirme que la conscience continue. Et que donc, du coup, c'est aussi un moment qui est très privilégié pour réaliser l'éveil à ce moment-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut s'y préparer, qu'on peut envisager de réfléchir concrètement à qu'est-ce que ça va représenter la mort pour nous. Alors on sait que on peut déjà prendre conscience qu'on va devoir tout laisser derrière nous au moment de mourir. On sait qu'on ne va pas pouvoir emmener nos possessions avec nous. Tout ce qu'on a bâti, tout ce qu'on a construit, tout ce qu'on a accumulé, il va falloir le laisser derrière. Ça, c'est facile à comprendre. Mais on va aussi laisser nos proches. Tous les êtres qui nous sont chers. Pour celui qui part, c'est pas une personne qui meurt, c'est tout le monde qui meurt. Quelque part, c'est tous nos proches disparaissent. On va devoir partir tout seul. Et puis il y a quelque chose qui est très aussi très important, c'est que on est très identifié à ce corps, notre corps. Et il faut comprendre que ce corps non plus, on ne va pas pouvoir l'emmener avec nous. Il n'est pas nôtre. Il est notre véhicule dans cette vie-là, mais au moment de mourir, il va falloir le laisser. Et comment ça va se concrétiser? Comment on va faire l'expérience de ça concrètement? C'est que avec notre corps, il y a nos sens qui vont décliner. On est très attaché à nos sens. On ne s'imagine pas à quel point on peut être identifié, attaché à nos sens, parce que c'est tellement profond qu'on ne s'en rend pas compte. Mais peut-être les gens qui travaillent dans les hôpitaux, qui accompagnent des personnes en fin de vie, en Occident, on est très peu en contact avec la mort finalement. C'est un sujet qui est tabou. Il y a des personnes qui assistent à un décès peut-être une fois, deux fois dans leur vie. Alors que dans d'autres pays, c'est quelque chose... on est en contact avec la mort au quotidien. En Inde, par exemple, certains pays, c'est quelque chose qui fait partie du quotidien. Alors que nous, en Occident, on n'a pas trop de contact avec ça direct. ou avec une personne qui est enfin induite, une mourante. Et pourtant, ça nous donne beaucoup de... Ça peut être très important dans notre chemin de nous familiariser avec cet aspect-là de la vie. Pour les bouddhistes, c'est aussi important que la naissance, le moment de mourir. Comment ça se concrétise pour nous? Avant le dernier souffle, le corps part petit à petit, c'est-à-dire nos sens déclinent. À un moment donné, peut-être on ne reconnaît plus ses proches. La vue disparaît, l'ouïe disparaît, le goût disparaît. Et l'intellect aussi finit par se... On a du mal à réfléchir correctement, on a du mal à raisonner. Ça aussi, ça nous échappe. Pour la plupart des gens, ça donne lieu à un sentiment d'anéantissement. Ma vue décline, donc je meurs. Il y a quelque chose de moi qui part. Et à ce moment-là, ben, on a un choix, c'est soit on s'accroche à ça, et effectivement, il y a la pensée de celui qui dit « je meurs » parce qu'il a vu qu'il décline, ou alors on est invité à rester dans l'expérience. De voir que l'expérience de la vue qui décline, par exemple, c'est une expérience à part entière. Il ne manque rien à cette expérience. Il manque quelque chose du point de vue de celui qui s'accroche au fait de voir. Je vois, donc si je ne vois plus, je meurs. Mais du point de vue de l'expérience, du pratiquant, on est invité à voir qu'il y a un phénomène qui se transforme, mais que l'expérience continue. Et on reste dans ce glissement, dans cette transition de phase, passe d'une phase à une autre, mais de voir que dans la phase suivante, il ne manque rien à l'expérience. L'expérience est pleine du fait de peut-être perdre la vie, d'un phénomène qui disparaît. Et puis ensuite, l'ouïe. Et puis ensuite, le goût, le toucher, les sensations qui s'amenuisent, qui disparaissent. Et puis peut-être l'intellect. Voilà, l'intellect. Ça, c'est ce qu'on fait en méditation. Sans le savoir, quand on pratique ne serait-ce que la méditation chinée comme ce soir, c'est une façon de se préparer à mourir. C'est-à-dire, c'est une façon à se préparer, c'est une façon de voir que ce mouvement de naissance et de mort, en fait, il est constamment à l'œuvre, à chaque instant. À chaque instant, il y a des phénomènes qui naissent, qui demeurent un moment, et puis qui cessent. Ce processus est là tout le temps. Et qu'est-ce que fait celui qui pratique la méditation? Il s'entraîne à rester dans un flux de conscience. Instant après instant, je laisse les choses émerger, je laisse le demeurer, et puis je les laisse partir. Je laisse venir, je laisse partir. Et on se familiarise avec ce processus naissance, mort, pour voir que il y a une, pour réaliser qu'il y a une partie, on pourrait dire, qui n'est pas sujet, justement, à la naissance et la mort. C'est la conscience, ce qui observe, qui est conscient du processus de naissance et de mort. Et plus on va pratiquer ça, plus on va se familiariser avec ce processus, et plus on va se sentir confiant que les choses naissent, les choses meurent, mais il y a une partie qui n'est pas sujet à ça, qui n'est pas anéanti. Il y a pas, et si on le réalise profondément, peut-être qu'on va pouvoir réaliser au moment de mourir, justement, que la pensée qui dit « je meurs », au bout du compte, c'est juste une pensée. C'est l'esprit. La pensée qui dit « je meurs ». C'est pas le corps qui dit « je meurs ». Le corps, lui, ne meurt pas. Le corps, il y a un soutien valide pour la conscience à un moment donné, puis à un moment donné, il change. Il change de forme, il passe, il vieillit, il se dégrade, et puis au bout d'un moment, il finit en poussière, etc. Mais c'est pas le corps qui dit « je meurs ». C'est comme si, on sent une mauvaise odeur, c'est pas le nez qui dit « ça pue ». Le nez, il s'en moque. C'est la conscience qui dit, c'est nos conditionnements qui font que cette odeur on l'aime pas, ou cette odeur on l'aime bien, etc. Donc qu'est-ce qui meurt? Et donc dans l'entraînement de l'esprit, on va se familiariser avec ça, comme on le fait avec la méditation, à voir que finalement ce mouvement de naissance et mort est là constamment. et qu'on apprend à laisser défiler les choses, à ne pas s'agréer, et que si, et on peut faire cette expérience, quand je disais, voilà, amener l'aisance dans l'esprit, de voir que si je m'autorise à rester dans le moment présent, je m'autorise à rester dans ce qui est le moment présent sans m'attarder sur le passé, sans revenir sur le passé, sans me retourner, sans trop de spéculation sur l'avenir, sans trop m'inquiéter sur l'avenir, je peux rester dans un flux de conscience qui, lui, n'est pas affecté par naissance, mort, etc., qui ne s'identifie pas à ce mouvement de transition, transformation. Et de voir qu'on peut se sentir à l'aise. Dans l'entraînement de l'esprit, on va parler de 5 forces. En fait, le quatrième point, c'est un résumé de l'entraînement de l'esprit. On va parler de 5 forces. 5 forces qu'on va appliquer de ce moment-là jusqu'au moment de la mort. Et les 5 forces, on va aussi les appliquer au moment de la mort, mais dans un ordre un peu différent. Mais il s'agit de la même chose. Alors déjà, l'entraînement de l'esprit, je vous l'ai dit, c'est un résumé de la voie bouddhiste. C'est-à-dire, c'est la quintessence de l'enseignement du Bouddha, résumé dans un texte très concis. Mais comme il y a encore beaucoup de choses, le quatrième point, c'est un résumé de l'entraînement de l'esprit. Voilà, un résumé de résumé. C'est pour vraiment bien synthétiser la chose, et si on les retient bien, on peut voir que si on applique ces 5 forces dans la vie, tous les jours, on a tout le chemin. On a tous les outils du chemin proposés par le Bouddha. Alors la première force, c'est la force de l'impulsion. On dit on l'appelle aussi la force de l'engagement. Lama Tsultrem, souvent, il commence les journées comme ça quand on est au centre bouddhiste. À Luce, souvent, il nous rappelle cette force de l'impulsion en début de méditation. La force de l'impulsion, c'est de garder notre motivation de bodhisattva. Quel est le point central de l'entraînement de l'esprit? L'attitude du bodhisattva. Puissais-je amener tous les êtres au bonheur? Puissent tous les êtres être libres de la souffrance? Et que ça devienne notre priorité, ce qu'il y a de plus important pour nous. Ce qu'on appelle la bodhicitta, développer la bodhicitta. Faire en sorte que la bodhicitta accompagne notre esprit, nos paroles, nos actes, tout au long de cette journée. Alors on dit, voilà, traditionnellement on dit, puisse la bodhicitta, l'esprit de bodhicitta, être là, désormais, et jusqu'au moment de la mort. Et plus particulièrement, jusqu'à la fin de ce mois-ci. Et plus particulièrement, jusqu'à la fin de cette journée. Et on commence la journée comme ça, c'est-à-dire c'est une force qui nous donne un élan. On commence la journée avec ça, en se rappelant que c'est ça qui est le plus important. De faire en sorte que notre esprit soit dirigé vers les autres. Vers ce souhait de tous les êtres, y compris moi-même, soyons libres de la souffrance et trouvons les causes du bonheur. Ça c'est la force de l'impulsion, c'est ce qui donne un élan à notre journée. Ensuite, la deuxième force, c'est le pouvoir de la familiarisation, l'habitude. Il s'agit de la pratique de Tonglen. On se familiarise avec la pratique de Tonglen qu'on a vue. Alors, il y a la méditation sur le coussin, mais on l'a vu, ce qui est plus important, c'est de comprendre comment on l'intègre à la vie quotidienne. Quand il y a une circonstance défavorable qui nous arrive, pratiquons le Tonglen, c'est de considérer que lorsqu'il m'arrive quelque chose de pénible, je fais une pierre 2 coups, 10 coups, 100 coups, c'est-à-dire par le fait d'éprouver cet inconfort ou cette difficulté, j'imagine que j'absorbe la difficulté de tous les êtres. C'est-à-dire tout, ça peut être un mal de genou, ça peut être une anxiété par rapport à quelque chose. Tonglen, ça signifie s'arrêter là-dessus et se dire, par le fait même d'éprouver ça, j'imagine que j'en débarrasse l'univers entier, j'en débarrasse tout l'espace autour de moi, par le fait de le ressentir. J'y pense juste, c'est juste une pensée, jusqu'à ce qu'on ait la conviction que, par le fait de le ressentir, tant qu'à le ressentir, autant que j'absorbe celle de tous les êtres. On n'est pas en train de se dire, j'en rajoute une couche, on n'est pas en train, l'idée de Tonglen, le résultat de cette pratique, ne va pas avoir pour effet de nous en mettre une couche par-dessus, de nous faire souffrir plus. Non, c'est tant qu'à faire, tant qu'à souffrir, tant qu'à éprouver cet inconfort, cette difficulté, eh ben, j'imagine que ça absorbe les difficultés de mes proches en ce moment. Ou voilà, où j'élargis à des gens que je connais ou à tous les êtres. C'est ça. Et plus on fait ça, plus ça va vite. C'est-à-dire que c'est une gymnastique de l'esprit qu'on fait jusqu'au moment où on a la conviction que ça y est, c'est fait. Je l'éprouve mais par contre, l'espace en est libéré. Rien que ça. Ça ne va pas forcément faire disparaître l'inconfort. Ça va changer le rapport à l'inconfort ou à la difficulté. On lui donne un sens, le sens de la compassion. Et quand on est entraîné, ça prend une seconde. Il suffit juste d'avoir ce réflexe-là, plutôt de subir cette difficulté, moi, mes problèmes, ma souffrance, etc. Voilà, je la transforme de cette façon-là. Et plus je fais ça, plus je m'y habitue, plus ça devient puissant, plus ça devient rapide. Au bout d'un moment, c'est juste un mouvement d'esprit. Et quand on éprouve quelque chose de bien, quand il nous arrive quelque chose de bon, de bien, là, l'exercice, ça consiste à le partager. J'éprouve une sensation agréable, je mange un bon repas, voilà, ça peut être, par exemple, je profite d'un bon repas délicieux, et ben, j'imagine que le fait de me sentir rassasié, et ben, je rassasie tous les êtres qui éprouvent la faim, qui éprouvent la soif, qui éprouvent ou des problèmes, ou des, voilà, qu'ils se sentent soulagés, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent aussi bien que je suis en train de me sentir bien en ce moment. Ne serait-ce que en ce moment. Et puis parfois, si on veut rendre ça plus concret, plus facile, on pense juste à une personne qui nous est proche. Mais l'idée, c'est que à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bon, qu'il nous arrive quelque chose de pénible, on l'associe à cette pratique-là. Il m'arrive quelque chose de bien, je suis heureux, je l'offre. Il m'arrive quelque chose de pas bien, je souffre, je prends. Donner, recevoir, donner, recevoir. Si on arrive à faire ça tout le temps, non seulement ça devient puissant, mais en plus, ça devient puissant en termes d'efficacité pour l'esprit, et puis peut-être pour les autres, sans doute même. Mais surtout, ça devient aussi puissant parce qu'on médite continuellement, puisque notre journée est faite de ça. De choses qui nous arrivent de pénibles et des choses qui nous arrivent agréables. La journée, c'est fait de ça. Donc on pratique continuellement. Il s'agit juste de développer cette force de la familiarisation, force de l'habitude. Alors ensuite, le pouvoir des graines vertueuses. Les graines de la vertu, ou alors on dit le pouvoir des graines blanches. C'est quoi les graines blanches? Il s'agit en fait de ne jamais hésiter lorsqu'on a l'occasion de pouvoir apporter une aide, de pouvoir accomplir un acte qui peut être bénéfique pour l'autre. Ça peut être n'importe quoi, donner à manger aux oiseaux, aider quelqu'un à déménager, de toujours avoir conscience que même les petits actes, ça en vaut la peine. Ça en vaut toujours la peine. Si on peut le faire, si on est en mesure de le faire, ne jamais hésiter. Être prompte à accomplir les actes, les graines vertueuses, les graines blanches. Ça va devenir d'autant plus puissant si on l'accompagne de l'esprit du bodhisattva. C'est-à-dire ne pas se limiter simplement à l'acte, mais accompagner un acte positif de l'idée, par cet acte, puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Si je donne à manger aux oiseaux, il y a l'acte en lui-même qui est généreux, qui est positif, avec une belle intention. On dit l'esprit peut être beaucoup plus puissant que ça. On peut accompagner cet acte-là d'une motivation beaucoup plus vaste. Par cet acte, puissent tous les êtres, que ce soit les animaux, que ce soit les oiseaux, puissent tous les êtres ne plus jamais souffrir de la faim, de la famine. On donne à cet acte-là une grandeur. Parce que du point de vue bouddhiste, en fait, l'esprit, c'est ce qu'il y a de plus puissant. On peut faire beaucoup de choses avec l'esprit. Il n'y a pas lieu de se limiter au concept d'un moi en train de donner des graines. On peut jouer avec ça. On peut lui donner une puissance, on peut lui donner quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce qu'on dit, le fruit est le résultat de nos aspirations. On aura le fruit de nos aspirations. Donc si par cet acte on y met quelque chose de vaste, il y aura des fruits vastes. Et on joue beaucoup avec ça, en fait, dans le bouddhisme tibétain, dans le Vajrayana, mais j'y reviendrai. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, tout est ritualisé. On donne un caractère sacré à tout. On s'entraîne à donner un caractère sacré à tout, même au fait de manger, par exemple. Manger, on l'a vu dans Tonglen, par exemple. On peut lui donner une dimension plus puissante que le fait simplement de nourrir le corps. Si j'imagine que par cette sensation agréable, le fait d'être rassasié, eh ben, j'imagine que tous les êtres, que ce sentiment, cette joie ou ce soulagement emplit l'espace, ça va avoir une impact puissante. La première qui est palpable, c'est sur mon esprit. On peut faire la différence. On n'est plus simplement en train de manger, monsieur ou madame en train de manger. On donne à cet acte quelque chose de beaucoup plus vaste. Dans le bouddhisme tibétain, on va encore plus loin. On utilise des visualisations. On imagine que notre corps est un univers sacré. On se visualise, on imagine que notre abdomen n'est plus notre abdomen. C'est l'univers entier rempli d'êtres qui ont faim, qui ont soif, et quand on absorbe de la nourriture, on imagine que voilà, cette nourriture arrive en offrande et les comble. On joue avec ça. Et si on fait l'exercice, tout bêtement, c'est quelque chose en fait qui paraît tout bête comme ça, mais que chacun peut s'approprier. On peut vraiment donner à l'acte de manger quelque chose de très de sacré, qui rentre dans le cadre du chemin. Boka Rinpoche, qui est un très grand maître contemporain, qui était disciple de Kalu Rinpoche, lui aussi très grand maître contemporain, qui lui disait, je comprends très bien que à un acte positif, on puisse donner une dimension très vaste comme ça, mais qu'en est-il des actes neutres ou des actes négatifs? En quoi le fait de faire jouer l'esprit, ça a une impact positif? Et Kalu Rinpoche lui disait, il lui expliquait comment manger, justement. Il suffisait de se le dire. Et il disait même qu'un acte neutre, comme aller aux toilettes, ça pouvait se transformer en acte positif. Dès lors qu'on se disait, je vais aux toilettes pour le bien des êtres. Mais il n'y a rien à comprendre. C'est simplement se le dire. Je vais aux toilettes pour le bien des êtres. On joue sur quoi? On joue simplement sur notre esprit. Et dans le Vajrayana, aller aux toilettes peut revêtir un caractère sacré. Et on se visualise. Il y a vraiment des pratiques où on se visualise. On imagine on n'est plus monsieur ou madame un tel en train d'aller sur le trône. On s'imagine sous la forme de Chenreji. Chenreji, c'est, on va dire, une représentation de la compassion. Hein, on se représente sous... On n'est plus monsieur ou madame un tel, on est la grande compassion. La compassion. Illimitée pour tous les êtres. Et on imagine que notre corps est une enceinte vide. Et on est Chenreji tout au long de la journée. Et même quand on va aux toilettes, toutes les substances qui s'évacuent de notre corps sont visualisées comme du nectar qui vient combler tous les êtres. Ça paraît tordu comme ça. Mais en fait, rien que faire l'exercice, on joue avec les concepts. Finalement, c'est notre esprit qui dit « Je suis monsieur ou madame un tel en train d'aller aux toilettes ». Si je dis « Je suis Chenreji » et « Je... » distribue du nectar à tous les êtres pour les combler, ça change la donne. Il se passe quelque chose dans l'esprit. On fait ça tout le temps. Dans un centre tibétain, au temple, enfin voilà, etc., ce n'est que des choses comme ça. Le matin, on remplit des bols. Quand on ouvre l'autel du temple, on remplit des bols d'offrandes. C'est une pratique très courante. Mais le sens profond de ça, c'est concrètement qu'est-ce qu'on fait? On va chercher de l'eau au robinet et on le met dans des bols. Quand on déplace de l'eau qui était là-bas, on la met. Enfin, voilà. Concrètement, c'est ça qu'on fait, quoi. Il n'y a rien de. Par contre, c'est ce qu'on y met avec l'esprit qui prend une dimension. C'est qu'en fait, au moment où on remplit les bols d'offrande, d'eau, chaque bol, on lui donne une signification. On lui donne la signification de ce qu'on appelle les offrandes extérieures. Tout ce qui est agréable au sens. On offre tout l'univers qui nous est agréable par les sens. Tout ce qui est agréable par la vue, tout ce qui est agréable par le goût, tout ce qui est agréable par le toucher, par l'ouïe, etc. Et pour concrétiser ça, on remplit des bols d'eau. Et puis on les remplit à ras-bord. L'idée de, voilà, par exemple, le bol qui représente l'eau pour boire, ou le bol qui représente les fleurs, ou le bol qui représente la lumière, etc. On le remplit à ras-bord, comme si le bol était un univers qu'on remplissait d'offrandes. Et on dit qu'en faisant ça, on accumule du mérite, que ça a une impact très positive. Il suffit d'y croire, il suffit de le faire très sincèrement. J'imagine que ça, c'est un univers, que ce bol est un univers, et je le remplis d'eau. C'est un outil qui est très simple et qu'on utilise tout le temps. Dans Vajrayana, ce n'est que ça. On transforme tout avec l'esprit. Et un enfant de 5 ans, enfin quand on comprend le principe, un enfant de 5 ans peut faire ça. D'ailleurs, les enfants font ça très bien, parce que c'est quoi le principe? C'est quand on joue aux cow-boys et aux indiens, l'idée c'est que, moi je suis le cow-boy, toi t'es l'indien, ça c'est plus ma main, c'est mon pistolet, puis voilà. On décrète que toi et moi, que ça c'est mon pistolet, donc si je fais pan, tu meurs. Et on joue à ça, et très naturellement, quand on est enfant, on le fait très bien. Et c'est cet aspect de l'esprit en fait qu'on utilise dans le Vajrayana. On fait ça tout le temps, et on dit que c'est très très puissant quand on est à l'aise avec ça, parce qu'on peut tout transformer. Pourquoi on peut tout transformer? Parce qu'on l'a vu en fait, parce que les choses ne sont pas aussi solides qu'elles le sont, ne sont pas aussi réelles qu'elles le sont. Effectivement, ça on dit que c'est une main. Mais quand on dit que c'est une main, c'est une désignation, c'est une convention. On appelle ça une main. Mais au fond, ce n'est pas une main. Il n'y a pas quelque chose qui est une main là-dedans. La main désigne un ensemble de doigts avec une paume, puis par convention, on appelle ça une main. Mais même les éléments qui composent cette main il n'y a pas de doigt, il n'y a pas de substance doigt dans le doigt. Le doigt est un assemblage de tissus, de muscles, d'os, et on se met d'accord, on appelle ça un doigt. Mais si je décortique encore les éléments qui composent ce doigt, c'est pareil. Ce qui fait que je peux très bien appeler ce bol, on est d'accord, c'est un bol, mais je peux appeler ça une tasse. Si je mets de l'eau dedans et puis qu'on se met tous d'accord, c'est plus un bol, c'est une tasse, je bois dedans, ça devient une tasse. Pourquoi on peut faire ça? Parce que ça n'existe pas en tant que bol. Si je mets de la terre dedans et que je mets une fleur dedans, ça devient un pot de fleurs. On se met d'accord, c'est un pot de fleurs. Si tout le monde est d'accord, c'est un pot de fleurs. Et donc, si je décrète que je ne suis plus aux toilettes, je suis en train de nourrir tous les êtres, etc., ça marche aussi. On joue avec cet aspect de l'esprit. Parce que, en fait, en essence, je ne suis pas monsieur ou madame Attal en train d'aller aux toilettes. C'est une convention. C'est aussi l'esprit qui fabrique ça. Et on peut jouer avec ça. En tout cas, le Vajrayana, ça s'appuie... je fais un peu une parenthèse sur le Vajrayana pour montrer que cet outil-là, qui est, que je vous dis, ça n'a rien de compliqué. C'est quelque chose que même un enfant peut comprendre. On l'utilise tout le temps pour transformer n'importe quel acte de la vie quotidienne en un acte sacré et un acte qui va nous faire avancer sur le chemin et qui va être profitable aux autres. Manger, dormir, courir, faire les courses, on peut faire ça avec tout. Et là, dans cette force des graines blanches, c'est ça qu'on nous dit. C'est ne jamais hésiter à accomplir quelque chose de positif, mais tout en accomplissant quelque chose de positif, le nourrir d'un esprit très très vaste, faisant des souhaits. Si c'est l'acte de positif de nourrir les oiseaux, tous les êtres, par cet acte, bénéficier de tout ce dont ils ont besoin. Ça peut aussi, quand on accomplit quelque chose, quand on renonce, par exemple, à un facteur perturbateur, à une tendance, à une mauvaise habitude, et qu'on décide de dire « Non, ça, je ne veux pas... je veux pas retomber là-dedans, je sais que ça ne va pas être profitable à l'autre, ça ne va pas m'aider non plus, je décide d'y renoncer », on peut y rajouter quelque chose de plus. Par le fait de renoncer à ça, je souhaite que tout le monde trouve la ressource ou la sagesse de ne pas se laisser aller à cet acte négatif. Tous mes proches, tous les êtres, etc. Et je lui donne une dimension encore plus vaste. Et on n'a pas idée de l'impact que ça peut avoir sur l'esprit de faire ce genre de choses. Alors ensuite, la quatrième force, c'est la force du renoncement. La force du renoncement, on dit non à quoi? Non à l'emprise de l'esprit égocentrique. On en a parlé en fait du point de vue de la voie bouddhiste. Je vais vous lire un texte que j'avais trouvé super. C'est un texte de Boka Rinpoche. À quoi sert d'étudier et de pratiquer le dharma? Est-ce pour avoir une longue vie? Non. Pour jouir d'une bonne santé? Non. Pour être riche, avoir de nombreuses possessions? Non. Pour vaincre nos ennemis ou pour favoriser nos amis? Non plus. En bref, le dharma sert-il à nous donner des conditions de vie agréables, une existence dans le luxe? Non, il ne s'agit pas de cela. Sert-il alors à nous accorder des pouvoirs qui nous rendraient supérieurs aux autres, à accomplir des prodiges ou des miracles qui provoquent l'étonnement? Encore non. Le dharma n'a donc pas pour objectif de nous permettre d'obtenir le bien-être des hommes, pas même celui des dieux. Quelle est dès lors la véritable fonction du chemin spirituel? Ne reconnaissant pas la nature éveillée de notre esprit, primordialement présente, là où il n'y a pas de moi, nous concevons un moi, qu'ensuite nous chérissons. C'est un conditionnement qui se trouve très fortement imprimé en nous. Éliminer cette erreur fondamentale, tel est l'objectif du dharma. Tous les aspects du chemin en essence servent à vaincre la saisie égocentrique, à la faire disparaître. Du fait de l'amour de soi-même surgissent toutes les difficultés. Une vie courte, un travail écrasant, l'incapacité d'accomplir ce que nous voulons, la pauvreté, l'échec, les terribles conditions de vie des mondes inférieurs, toutes nos souffrances et toutes nos angoisses. Le chemin spirituel est précisément le remède à la souffrance et à l'angoisse, qu'il réduit à néant, car il s'attaque à leur racine, la saisie égocentrique. Il n'existe pas d'autre solution pour éradiquer la souffrance. Aussi est-ce là le critère permettant d'évaluer notre progrès. Si nous voyons qu'au fur et à mesure de notre pratique, la saisie égocentrique diminue, c'est que notre approche du dharma est correcte. Dans le cas contraire, le dharma n'aura pas atteint son but. Voilà, ça c'est un point dont il est très important de se rappeler que c'est ça l'objectif du dharma. Déraciner la saisie égocentrique, c'est-à-dire la croyance à un moi séparé du reste. Il nous fait croire que tant que pour être heureux, et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, par habitude, et pas aussi parce qu'on ne connaît pas d'autres moyens de fonctionnement, on n'entrevoit pas qu'il existe un autre moyen de fonctionnement, on considère que pour être heureux, il faut satisfaire tous les intérêts de l'ego, de vraiment se focaliser sur nos intérêts et éviter tout ce qui pourrait nous nuire. Moi d'abord, le reste on verra. Mais moi d'abord. Tant que je me concentre là-dessus, on suppose que c'est comme ça qu'on finira par être heureux au bout du compte. Et du point de vue de la voie bouddhiste, on dit c'est au contraire la racine de toutes nos souffrances. Et on dit que, quelles que soient nos conditions, aussi favorables soient-elles, tant qu'il y a saisie égocentrique, il y a un malentendu sur la nature des choses, on conçoit un sujet et un objet et on ne voit pas que c'est... On pense que c'est deux choses séparées. Tant qu'il y a ce malentendu-là, on va souffrir. On va rencontrer dukkha. Tôt ou tard et continuellement. C'est ça l'objectif du dharma. C'est de nous emmener jusqu'au bout du chemin. Et le bout du chemin, c'est même pas des conditions extraordinaires favorables, parce que ça pourrait nous arriver en route. Le bout du chemin, c'est quand on aura déraciné cette croyance en un moi séparé du reste, en ce qu'on appelle la saisie égocentrique. Et donc l'antidote suprême à ça, la méthode ultime à ça, c'est la compassion, la bodhicitta. La bodhicitta ultime, c'est-à-dire la reconnaissance justement par l'observation profonde qu'il n'y a pas une telle entité, que la conception d'un moi, voilà, est une conception et non le reflet d'une réalité, ce qu'on appelle la bodhicitta ultime et la bodhicitta relative. C'est pour contrecarrer cette croyance-là, simplement s'ouvrir. C'est-à-dire porter son attention, la considération sur le bonheur des autres et le fait que. Et faire en sorte que les autres ne souffrent pas. L'égocentré, c'est tout est dirigé vers soi, tout est polarisé dans un petit point, c'est voilà. Comment me préserver des circonstances désagréables et comment servir mes intérêts. toute l'expérience, tout notre univers est concentré là-dessus. Donc on a un point de vue qui est très étroit, un point de vue qui est très... Voilà, on voit tout par le bout de la lorgnette. Et vraiment, c'est... Et l'idée de la compassion, bah, c'est justement de voir qu'il existe un autre mode de fonctionnement dans lequel on est le premier service. Et ça, c'est très important à comprendre, parce qu'il y a des gens qui pensent que la compassion, à partir d'un certain point, c'est pas bon pour moi. Du point de vue bouddhiste, la compassion, c'est 100% bénéf. À aucun moment, on considère que la compassion peut être au détriment de soi-même. C'est toujours au bénéfice de soi-même. Alors parfois, on peut avoir aussi une mauvaise compréhension de la compassion. Mais la compassion au sens bouddhiste du terme, c'est simplement... En fait, comment on définit la compassion dans le bouddhisme, c'est le souhait que les autres ne souffrent pas. C'est un état d'esprit. On ne parle même pas d'une action en premier lieu. Effectivement, cet état d'esprit peut déboucher sur une action. Je souhaite que l'autre ne souffre pas. Mais pas nécessairement. C'est simplement le souhait que l'autre ne souffre pas parce que je ne veux pas souffrir. Quand on parle de l'amour dans le bouddhisme, alors effectivement ça correspond pas forcément, c'est pas forcément une bonne traduction. On utilise le mot compassion, mais en français ça peut avoir la connotation souffrir avec. Alors que dans la vue bouddhiste, c'est pas un sentiment la compassion, c'est une sagesse. C'est très naturel. Je souhaite que l'autre ne souffre pas parce que je ne souhaite pas souffrir non plus. Donc voilà, je conçois que l'autre ne veuille pas souffrir non plus. Mais ça n'implique pas forcément une action. Bien sûr, après, ça peut nous pousser à agir en fonction. En tout cas, on dit que c'est une compréhension erronée de penser que la compassion, ça peut être au détriment de nous-mêmes. Selon le bouddhisme, toutes nos souffrances viennent de l'attitude égocentrique. Voilà, tout va dans ce sens-là. Dès lors qu'on fait aller les choses dans ce sens-là, on est les premiers servis. C'est-à-dire, on n'est plus justement focalisé sur à s'apitoyer sur son propre sort, à s'inquiéter. C'est épuisant l'égocentrisme, qu'on appelle le samsara. C'est épuisant parce qu'on est on n'est jamais tranquille. Quand il nous arrive quelque chose de bien, ben on a peur de le perdre. Quand on l'a pas, ben on court après. Et puis, en attendant, on s'inquiète de pourvu qu'il n'arrive rien. On n'est jamais tranquille dans le samsara. Et voilà, c'est l'état d'esprit. Alors que, voilà, la bodhicitta, la compassion, c'est au contraire quelque chose où on s'ouvre, l'esprit s'ouvre. Il est plus polarisé, il est plus focalisé. Au contraire, il s'ouvre à l'extérieur. Et dans cette ouverture, il trouve la paix. Dans cette ouverture, il trouve la joie. Parce que justement, on finit par s'oublier. Ne serait-ce que parce qu'on voit que bah dans cet état d'esprit-là, voilà, il y a quelque chose qui se détend, il y a quelque chose qui se soulage, quelque chose qui est moins aux aguets, qu'est-ce qui pourrait arriver. Vous avez le droit de réagir hein, si je dis des trucs, parce que je ne sais pas comment c'est perçu, forcément, tel que c'est présenté. Hein. Ça peut, si ça vous interpelle, voilà, n'hésitez pas à m'arrêter pour dire, voilà, on n'est pas tenu d'avaler tout ce qu'on nous raconte dans le bouddhisme. S'il y a des choses voilà, qui vous dérangent, enfin, voilà, qui vous interpellent, etc., moi j'aime bien laisser la place à ça, quoi. Vous avez le droit d'intervenir, etc. Parce qu'on dit, c'est difficile de se faire comprendre, il y a ce que je veux faire passer, comment, finalement, qu'est-ce que je dis, et puis comment c'est interprété de part et d'autre. Quoi. Donc, il y a pas mal de filtres. Et enfin, la force des souhaits. Alors les souhaits, c'est très aussi, c'est une pratique qui est très importante, notamment dans le bouddhisme tibétain. On récite beaucoup de souhaits. On récite beaucoup de souhaits, souvent des souhaits composés par des grands maîtres, qui ont justement un esprit très vaste, des chants de réalisation par exemple. Chants de réalisation, c'est des souhaits spontanés qui émanent de quelqu'un qui a atteint un très haut degré de réalisation et tout d'un coup il y a un chant qui sort ou un poème qui sort et c'est des souhaits très très vastes. Donc pourquoi c'est un intérêt de, voilà, de réciter tous les jours ses souhaits, parce que ça dépasse complètement justement nos limitations. Voilà, moi, bon, déjà que j'ai du mal à gérer avec mes propres problèmes, alors m'occuper des problèmes des autres, enfin voilà, on n'est pas là. Et puis on se met à réciter, voilà, puisse tous les êtres. Alors ça va des souhaits les plus grossiers aux plus vastes. Alors d'abord, ça peut être, voilà, puisse-t-il ne plus y avoir de famine dans le monde, de maladies, de guerres. Et puis ensuite, ça va crescendo. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance. Puissent tous les êtres être heureux. Puissent tous les êtres réaliser le plus haut degré d'éveil. Puissent le mot souffrance ne plus jamais exister dans les esprits. Enfin voilà, des choses comme ça. Et on se l'approprie. L'idée de la, c'est une pratique méditative. C'est-à-dire, là, le support, c'est pas la respiration. Le support, c'est d'être à même de réciter tout en accompagnant l'esprit de ce qu'on récite. Donc on se l'approprie, ce texte-là, qui est très vaste, très puissant. Et il y a un autre aspect aussi qui est très important, c'est qu'on dit que notre activité, quand on deviendra Bouddha, dépend des souhaits qu'on a formulés. Ça, c'est quelque chose, c'est un aspect qui est très important, sur lequel les maîtres insistent. Comme je vous disais, on aura le fruit de nos aspirations. Lorsqu'on devient Bouddha, on devient le fruit de ce qu'on a souhaité. Et donc, c'est pour ça qu'on nous encourage, avant de devenir Bouddha, à formuler des souhaits. C'est comme ça qu'on explique que, parfois, il y a certains maîtres, hein, des gens dont on considère qu'ils ont été jusqu'au bout du chemin, qui ont un rayonnement absolument vaste, illimité, alors qu'il va y avoir des maîtres qui ont exactement la même réalisation, pourtant, qui sont très peu connus, ou qui vont avoir un disciple, ou voire même, tout au long de leur vie, ils vont rester dans l'anonymat. Donc au niveau de l'activité, sera beaucoup moins vaste, en tout cas dans cette existence-là. Alors, on considère que c'est à cause de ça. Ça dépend en fait de ce qu'on a souhaité. Donc voilà, toujours réciter des souhaits, continuellement. Alors ça peut être des souhaits, voilà, très simples, quoi. Puissais-je, voilà, toujours développer de plus en plus d'amour, toujours être de plus en plus, à l'écoute, puissais-je être utile aux autres, puissais-je être source de bonheur, de bénéfices, etc. Des petites phrases comme ça qu'on se récite et puis qui vont imprégner nos journées et puis qui vont donner plus d'ampleur, qui vont devenir de plus en plus amples, de plus en plus profonds.
Une question? Les souhaits peuvent contrer une conséquence karmique chez autrui.
Comment?
Est-ce que un souhait qu'on formule pour quelqu'un peut freiner ou empêcher la conséquence karmique des actes d'autrui?
Oui, on dit qu'en fait, quand on fait un souhait, même par l'esprit, on considère que c'est un acte.
Plus fort que la conséquence karmique.
Ça a un impact. Je dis juste que ça a un impact. Après, que ça a une conséquence, mais qu'elle soit plus forte, moins forte, ça. Mais en tout cas, ça a un impact. Quand on dit réciter des souhaits, on considère même que si c'est des souhaits, c'est accompli par l'esprit. Du point de vue karmique, c'est un acte. Il y a quelque chose qui se passe. Ça aura une conséquence. Alors voilà. Ensuite, donc ça, c'est ce qu'on s'efforce d'appliquer de ce moment-ci jusqu'au moment de la mort. Les cinq forces. Force de l'élan, force de l'habitude, force des graines blanches, force
du renoncement,
force des souhaits. Et au moment de la mort, on applique ces mêmes forces, mais dans un ordre donc un peu différent. La première force qu'on applique au moment de mourir, c'est la force des graines blanches. Il faut savoir que les pratiquants, enfin, nous encouragent à préparer notre mort comme si on préparait un mariage. Pour les bouddhistes, la mort, ça peut se préparer. Et plus ce sera préparé en amont, plus ça va nous permettre de réunir les meilleures conditions pour ce moment important. Quand on parle donc, on nous invite à vraiment bosser notre testament. Et pas, il n'y a pas lieu d'attendre. On n'a aucune garantie qu'à Noël prochain, on sera encore là. Qu'on soit adolescent, qu'on soit vieux, qu'on soit truc, il n'y a aucune garantie. Donc, pour un pratiquant bouddhiste, le testament, ça se bosse dès maintenant. Et ça se bosse dans les moindres détails. Et d'ailleurs, à ce propos, on avait fabriqué un... D'ailleurs, toujours, on est toujours à disposition, à la boutique de Bodhicharya France. On a fabriqué un kit de fin de vie. Et en fait, c'est un petit... sorte de grille quelque chose qui nous permet de nous préparer. Alors il y a plein de choses là-dedans. Il y a par exemple des petites fiches qu'on peut distribuer au personnel médical, aux pompes funèbres, à nos proches. Voilà, ça peut nous servir de base, ça peut nous servir d'exemple. Voilà, et puis ensuite on se le réapproprie. Mais il y a plein de choses dedans. Qui contacter au moment de mourir, qui
il y a un bouquin là-dessus, bien préparer sa mort.
Il y a même un exemple justement tiré de ce livre là qu'on a mis dans ce kit de fin de vie d'une personne qui une pratiquante bouddhiste qui s'adresse à ses proches, qui dit peut-être que pour vous ça c'est un peu bizarre ma voie spirituelle, mon chemin spirituel, mais j'aimerais que vous sachiez que pour moi, le moment de la mort, c'est un moment important et j'aimerais que vous m'accompagniez dans ce moment-là. Et puis, elle donne des instructions. Elle explique un peu comment elle voit la mort en tant que bouddhiste et comment ses proches peuvent l'aider au mieux. Qui contacter, quel lama contacter, quel centre, quelle pratique on souhaite au moment de mourir. Puis, toutes les questions qui sont importantes. Donneur d'organes, pas donneur d'organes. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, par défaut, on est donneur d'organes. C'est-à-dire, si on ne fait rien, par défaut, on est donneur d'organes. Par contre, il y a des pratiquants pour qui, on dit qu'au moment de mourir, faire un don d'organes peut être une perturbation, peut provoquer une perturbation. Donc, il y a certains pratiquants qui préfèrent ne pas être donneur d'organes pour ça. On dit aussi qu'être donneur d'organes avec un esprit de bodhicitta, on dit que comme l'acte est très... il y a une intention très, très bonne, très altruiste, etc. On dit que ça peut compense le fait qu'il y ait perturbation. Donc à chacun de se positionner. Mais en tout cas, c'est important de le mentionner. En tout cas, si on ne souhaite pas être donneur d'organes, de faire des démarches. Et puis toutes les démarches qu'on peut épargner à nos proches. Est-ce qu'on veut être incinéré? Est-ce qu'on veut être enterré? Tout ce qu'on lègue, comment on lègue? On dit que c'est très important, que si on peut s'occuper de ça en amont, ça peut être précieux, à la fois pour nous et à la fois pour nos proches, de façon à ce qu'on puisse vivre le moment sans être embarrassé par toutes ces questions-là qu'on aura peut-être pu travailler en amont. Et là, dans les graines blanches, on nous dit... Donnez tout. Si le médecin, les proches, vous-même savez que ça y est, c'est le moment de partir, c'est très clair, etc. On dit c'est important de tout donner, jusqu'à la moindre chose. On dit au moment de la mort, c'est un moment qui est délicat, dans lequel on peut être perturbé, et donc à ce moment-là, il y a un attachement qui peut émerger, un attachement très fort qui peut faire refaire surface. Et pour pallier à ça, on nous dit de tout donner sans exception. Donner à des associations, donner au centre bouddhiste. Quand je dis ça, dans les textes anciens, on dit donner au dharma. Je dis ça, c'est pas pour prêcher ma paroisse. Pour ma paroisse, c'est parce que c'est vraiment dit comme ça. Il faut s'occuper de la compassion, on dit palliative. C'est quoi la compassion palliative? C'est la compassion, maman bobo, je te console, je te fais un câlin, ça va mieux. Ça résout pas le problème en profondeur, mais ça fait du bien. T'as un bobo, je fais un pansement. Ça, c'est la compassion palliative. Quelqu'un qui nous demande de l'aide, de l'argent dans la rue, on lui donne une pièce, etc. ça fait partie de la compassion. Ça ne résout pas le schmilblick, il va falloir qu'il recommence le lendemain. On ne peut pas fournir tous les besoins, mais on le fait pour ce moment-là. Mais c'est important aussi de prendre soin de la compassion ultime. La compassion ultime, c'est le dharma. C'est-à-dire, le dharma, pas seulement les enseignements du Bouddha, mais le dharma au sens de la vérité. La seule chose qui peut nous libérer et libérer les êtres ultimement, c'est de réaliser la sagesse. C'est de réaliser la vérité. Et le dharma en fait partie. Donc c'est pour ça que les maîtres encouragent à donner, pas seulement aux assiettes caritatives, mais aussi à tout ce qui favorise la transmission. Le dharma, les centres du dharma, tout ce qui pour nous incarne justement cette transmission. Pas forcément le bouddhisme, mais tout ce qui incarne justement la compassion ultime, celle qui nous emmène vers une libération définitive. Voilà pour la petite parenthèse. Et donc on nous dit de tout donner sans exception, pour pouvoir partir tout nu. Considérer que tout ce qu'on a eu dans cette existence, au fond, ne nous appartient pas. Donc, on repart tout nu. On arrive tout nu, on repart tout nu. Et il y a un truc qui m'a fait vraiment sourire, c'est que Lama Tenpa Gyamso, qui est un des lamas principaux de Lama Tsultrim, eh bien, dernièrement, lui a légué son matelas. Alors, ça fait sourire, parce que Lama Tenpa Gyamso, je veux dire, si Lama Tenpa Gyamso n'a pas réalisé l'éveil, pour moi, c'est quelqu'un, en tout cas, qui a compris quelque chose. Ça fait des années, des dizaines d'années qu'il vit en ermite en France. Donc en retraite, il a complètement abandonné tous les soucis de ce monde. Vraiment, le samsara, il n'en a plus rien à faire. Enfin, moi, de toute façon, je l'ai toujours connu comme ça. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu la moindre intérêt pour les activités de ce monde. C'est quelqu'un qui est sans arrêt en pratique. Et puis, aujourd'hui, après avoir passé des années à enseigner le dharma dans les centres, il avait vraiment le souhait depuis très longtemps que Kalung Rinpoche valide le fait qu'il parte en retraite jusqu'à sa mort. Et maintenant, il ne sort plus, il reste en retraite définitive. Mais tout yogi qu'il est, avec cette sagesse de conciliant, il continue à appliquer les cinq forces du Lojong. Il donne tout, même son vieux matelas pourri. Alors, quand Lama Sutri m'a dit « Mais je vais faire quoi de ce matelas ?» Enfin, c'est drôle quand même, mais non, il a pensé à ça, quoi. Voilà, ce matelas, il est pour Lama Sutri, au cas où il y aurait un attachement, quoi, sur son oreiller. Enfin, c'est drôle, quoi. Mais bon, si lui, il le fait, c'est que peut-être il y a quelque chose à retenir de ça. C'est qu'effectivement, peut-être, le moment de la mort va faire réveiller des choses en nous. Et pour partir vraiment le cœur léger, on pourrait dire, sans se retourner, donner tout. Il n'y a plus rien qui nous appartient. Nos proches, c'est pareil. On dit au revoir à tous nos proches. À un moment donné, on part seul sans se retourner. Ça n'enlève à rien à l'amour qu'on a eu pour nos proches, à la connexion. Et on souhaite d'ailleurs que le côté positif de cette relation se poursuive dans les vies futures ou dans le cheminement futur. Mais en tout cas, on part sans se retourner. Une fois qu'on a dit au revoir, c'est au revoir. On part tout seul et on sort. Voilà, de façon à ce qu'on n'ait plus à se préoccuper de ça. On dit, il n'y a rien de... L'idée, le dernier souffle, dernière pensée. C'est la dernière pensée, c'est ce qui va colorer la suite du chemin. Très important. Dernier souffle, dernière pensée. Donc, si notre dernière pensée, c'est de se préoccuper de comment gérer ça, etc., quand on arrive dans le bardo, c'est-à-dire l'état post-mortem, c'est ça qu'on sera en train de faire. C'est en train de régler les problèmes. Et ça, c'est pas bon. Donc, l'idée, c'est vraiment de pouvoir partir avec un esprit dégagé, un esprit léger et confiant, paisible. On va y revenir là-dessus. Donc, ça, c'est le pouvoir des graines blanches. Ensuite, le pouvoir du renoncement à l'ego. La force du renoncement. La force du renoncement, là encore, elle s'applique. Et là, il s'agira de la saisie égocentrique, elle se traduit fortement avec l'attachement à cette carcasse. Entre guillemets. Enfin, on est très attaché à notre corps. Même un vieux corps de 90 ans, voilà, qui est plus autre, on va voir qu'il peut y avoir encore un très fort attachement et donc le renoncement à cette saisie. Comme je vous disais, le corps va nous lâcher progressivement à son rythme, etc., par voilà, la vue qui décline, par les sens qui déclinent, etc. Eh bien, garder un esprit confiant, garder un esprit, voilà, on reste dans la pratique et on laisse ces choses partir. Ce corps ne nous appartient pas. Il a été notre véhicule dans cette vie-ci. On le laisse partir et on est confiant. Ce n'est pas nous. On se défait de ce corps. Ensuite, le pouvoir des souhaits. Donc là, c'est la même force que tout à l'heure, le pouvoir des souhaits, la force des souhaits. Et on dit aussi que les souhaits d'un mourant sont plus puissants que les souhaits qu'on peut faire quand on est voilà, en bonne santé, etc. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'est dit comme ça. Il paraît qu'on traverse une période particulière, un état d'esprit particulier, qui fait que les souhaits qu'on fait à ce moment-là ont une portée beaucoup plus puissante. Donc c'est pour ça qu'on disait, mettez le paquet. Et notamment, voilà, les souhaits, ça peut être, puisse la bodhicitta m'accompagner au moment de la mort et après. Si je ne l'ai pas dans ma vie future, la bodhicitta, puissais-je rencontrer des gens pour me l'enseigner, pour me la transmettre. Mais en tout cas, voilà, faire le souhait que la bodhicitta soit toujours notre priorité, soit toujours puissante dans notre esprit, soit toujours la chose la plus importante dans notre esprit. Pouvoir des souhaits, le pouvoir de l'élan. Donc là encore, c'est le pouvoir de l'impulsion, j'avais dit. C'est pratiquer jusqu'à son dernier souffle. On pratique jusqu'à son dernier souffle. On reste dans la pratique. Et donc là, il s'agit de notamment de la pratique de Tonglen. Si on est à l'aise avec cette pratique-là, pratiquer Tonglen jusqu'à son dernier souffle. Idéalement, la posture pour mourir, ça serait de mourir en posture de méditation, on dit. Il y a certains maîtres qui vivent comme ça, puis si on a l'opportunité de mourir comme ça, ça c'est la meilleure posture, la posture la plus favorable. Mais bon, c'est pas forcément... ouais. Ça serait vraiment la posture idéale, mais si on ne peut pas la faire, on dit la posture la plus favorable pour mourir, c'est la posture du lion couché. Alors, la posture du lion couché, c'est comme c'est la posture qu'on voit dans laquelle on voit le Bouddha au moment de son parinirvana. Donc, la joue droite sur la paume... la joue droite sur la paume droite. Donc, on est allongé sur le flanc droit, la tête sur un oreiller, l'auriculaire qui bouche la narine droite, donc on respire que par la narine gauche. La main gauche peut se poser sur le flanc, donc idéalement les jambes tendues. Bon, en général, si on met le... Bon, je vous fais la démonstration. Donc voilà, la joue droite sur la paume droite, avec la narine droite qui bouche comme ça, la main sur le flanc. Et évidemment, il faudrait laisser les jambes tendues, mais on ne tient pas forcément en équilibre. Donc on dit, bah voilà, il suffit de décaler un petit peu les jambes, comme ça, pour trouver l'équilibre. Et on respire par la narine gauche. Et là, on fait la pratique de Tonglen. C'est-à-dire, à l'inspire, je prends la souffrance de tous les êtres. À l'expire, je leur offre voilà, mon bonheur, mes vertus, de la lumière, etc. Et on dit, si on arrive à mourir comme ça, c'est la façon la plus merveilleuse de mourir. Bon, on dit la meilleure façon de mourir, c'est de mourir dans la nature de l'esprit. L'esprit reconnaissant la nature de l'esprit, on demeure dans la nature de l'esprit, effectivement, c'est la méthode ultime pour mourir. Si on ne peut pas mourir comme ça, mourir en faisant Tonglen, on considère que c'est une des façons les plus merveilleuses de mourir. Et jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle. Si on arrive à accompagner notre dernier souffle de cette pensée-là, c'est très, très, très bénéfique, très favorable. Et enfin, la force de l'habitude. La force de l'habitude, c'est que, voilà, faut pas se leurrer. La pratique qu'on utilisera au moment de mourir, ce sera la pratique, en fait, parmi toutes les pratiques qu'on a pu découvrir, qu'on a pu pratiquer dans notre vie, au bout du compte, ça sera celle qui nous est la plus habituelle. Celle auquel on fait appel aujourd'hui en cas de, voilà, en cas d'urgence. Voir à quel outil on s'agrippe à ce moment-là. Quelles sont les instructions du Dharma qu'on retient quand justement il faut pallier à situation délicate. Il y en a pour qui ça va être simplement chiner, la respiration. Il y en a pour qui effectivement ça va être la bodhicitta, tonglen ou des pratiques du Vajrayana. Voilà. Ben, faut pas se leurrer au moment de mourir. Ça sera, on sera peut-être même pas à même d'avoir voilà notre texte, nos prières, etc. Faut pas croire. Hein. Donc ça sera l'outil qui nous est le plus habituel, le plus facile à utiliser aujourd'hui. Et ce sera très bien. Faut pas se prendre la tête, à utiliser des méthodes sophistiquées qu'on n'a pas intégrées, qui nous sont compliquées au moment de mourir. On applique la méthode qui, pour nous, est de l'ordre de l'instinctif, quoi. Enfin, qu'est-ce qui vient tout de suite ?
À ma connaissance, on peut le faire par quelqu'un qui connaît. En général, c'est une réunion
de la montagne. On peut le faire par un homonyme. Alors, en plus, oui. En plus, si dans notre testament, on a donné des instructions sur qui contacter, est-ce qu'un lama peut faire la pratique de Powa ou la pratique de Chenrezi ou des souhaits pour nous à chevet, ça aussi, ça sera sans doute une grande aide pour nous. Donc, ensuite. Cinquième point, l'évaluation de l'entraînement de l'esprit. Comment on évalue qu'il y a des progrès dans notre pratique. Le premier point, c'est de savoir si la saisie égocentrique diminue, on l'a vu. On voit qu'avec la pratique, déjà, la reconnaissance de ce qu'est la saisie égocentrique devient de plus en plus évidente. On voit dans notre esprit quand est-ce que, qu'est-ce qui accompagne nos actes. Est-ce que c'est un état d'esprit qui est ouvert, qui est clair, qui est lucide, ou est-ce qu'on est sous l'emprise de la saisie égotique ? Plus on est clair avec ça, plus on la reconnaît facilement, et plus c'est facile de se dire, ok, il y a la saisie égocentrique, je ne donne pas cours. La saisie égocentrique, elle peut se manifester, mais si on ne lui donne pas cours, c'est bon, ça suffit. C'est-à-dire, si on voit que ce qui motive ce qu'on a envie de dire, ou ce qui motive ce qu'on a envie de faire, c'est la saisie égocentrique, pour le pratiquant, il s'agit simplement d'y renoncer, c'est-à-dire, je ne donne pas libre cours. Le mouvement de l'esprit peut être encore là, mais dès lors qu'on n'y donne pas cours, c'est bon, c'est ça, la pratique. Je reconnais ça, je ne donne pas cours. Parce que je sais que, de toute façon, au bout du compte, ça ne me servira pas et ça ne servira pas l'autre. Donc, c'est ça. Et de voir que, on est de plus en plus capable de reconnaître la présence de la saisie égocentrique et pas du tout court, c'est ça qui détermine qu'il y a des progrès sur notre chemin. Le deuxième point, remettant au meilleur des deux témoins. C'est quoi les deux témoins ? C'est moi et c'est l'autre. Qu'est-ce qui me permet de savoir que je progresse ? Effectivement, l'autre peut trouver que j'ai une attitude bienveillante, que un état d'esprit altruiste, que j'ai une conduite exemplaire, etc. Mais au bout du compte, le meilleur des témoins, c'est moi-même. C'est moi qui suis à même de savoir ce qui se passe réellement dans mon esprit. Parce que extérieurement, on peut avoir une attitude de parfait pratiquant, une attitude très bienveillante, etc. Mais peut-être qu'à l'intérieur, au contraire, ça peut être très égoïste, ça peut être très tumultueux, sous l'emprise de l'avidité, etc. Donc, toujours s'en référer, ne pas trop prendre à cœur les compliments qu'on peut nous faire ou au contraire les critiques qu'on peut nous faire. Le meilleur des témoins, c'est nous-mêmes. Ensuite, on dit, est toujours le précepte suivant, c'est « est toujours l'esprit heureux ». Alors, quand on dit « est toujours l'esprit heureux », ça ne veut pas dire qu'on doit... toujours la banane, toujours souriant, toujours. C'est pas de ça qu'il s'agit. Avoir toujours l'esprit heureux, ça veut dire en joie comme un pain. Quand il y a quelque chose de chouette qui nous arrive, on n'en fait pas tout un plat. On sait, c'est les circonstances, c'est très bien, on en jouit, on en profite, super. Mais on ne fait pas tout un plat, c'est-à-dire il n'y a pas lieu de trop s'y agripper, de trop miser là-dessus. On sait que c'est les circonstances, ça passe. Donc on se laisse pas, on reste stable à ce moment-là. Et cette stabilité, pareil, quand il nous arrive quelque chose, quand il nous arrive une tuile, quand le monde s'effondre entre eux, eh bien, on reste stable par rapport à ça. D'ailleurs, se faire de voir que on sait, on a déjà traversé d'autres choses, etc. Et donc, on sait que les choses changent. On sait qu'on va se relever. On a confiance qu'on va se relever. C'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et puis, plus on pratique, plus il y a cette confiance qui se développe. C'est-à-dire de voir que les circonstances défavorables, pénibles, on ne peut pas y échapper, qu'on en a vu d'autres et qu'on a réussi à se relever. Qu'on a réussi à, voilà, à voir qu'on n'en est pas mort ou qu'on a en tout cas réussi à rebondir. Et ça, c'est quelque chose qui va se développer avec l'entraînement. À traverser ces choses-là sans en faire trop toute une montagne ou un plat, ben voilà. Et puis ça nous préparera aussi à faire face justement à des choses vraiment pénibles, des choses dures, justement parce que on aura développé cette confiance qu'on va traverser au bout du compte. C'est un mauvais moment à passer, bon, c'est ça notre stabilité. Cette confiance va nous permettre de garder une stabilité et donc de garder un état d'esprit heureux, c'est-à-dire confiance stable. Et enfin, pour finir, si tu peux pratiquer même distrait, tu es bien entraîné. Qu'est-ce que ça veut dire, ce précepte ? Ça veut dire qu'on voit que notre pratique porte ses fruits lorsque, même quand on est impliqué dans une activité très fortement, impliqué dans, voilà, quand on est pris par une préoccupation, il y a quand même quelque chose qui nous ramène toujours au dharma. Il y a quelque chose, voilà, on ne perd pas de vue le dharma. On est toujours en train d'avoir un outil sous la main et se rappeler, voilà, les enseignements. Même quand on est complètement emporté, bah, il y a quand même une part de notre esprit qui se rappelle les enseignements, qui, voilà, qui garde ça en tête pour quand même garder un petit peu le volant. Pas lâcher complètement le guidon, mais on continue à manœuvrer. Ça prouve qu'il y a eu de l'entraînement. Voilà. Quatrième, cinquième point.
Moi je pense que c'est comme dans des conditions vraiment optimales, parce que une fois j'ai discuté avec un moine qui allait en Inde, qui était dans son avion, et dans un avion, et l'avion a traversé des perturbations, mais alors terribles, avec des trous d'air énormes, c'est vraiment lui là on va se cacher la gueule, c'est la fin. Et il me disait faut que je pratique, faut que j'essaie de trouver des mantras, mais il se souvenait de plus rien. Il m'a dit j'arrive même au Mani Padmé Hum, je ne savais même plus le dire, ouais. Je sais. Plus rien peut venir. Ah ouais. Donc ça fait comme un peu. C'est là, il faut quand même se raccrocher. Moi, je pense que l'idéal, c'est de quelqu'un qui. Ouais. Et moi, je vois, j'ai suivi mon frère qui est mort dans son lit chez lui, dans des conditions très sereines. Et il a eu énormément d'hallucinations. Et là, on voit qu'il contrôlait plus rien, quoi. Il était dans un autre monde, quoi. Hein. Il voyait vraiment des formes qui volaient au-dessus de lui. Et on ne peut plus rien lui dire.
Ouais, ça décrit vraiment les conditions. Ça décrit les conditions.
Qui n'est pas évidente, ou alors il faut vraiment, quand ça arrive, dire après la majesté, nous en viennent, mais il faut quelque chose. Je pense quand même qu'il y a un
truc. Allô ? Oui, j'arrive tout de suite.
Moi, je pense que c'est un peu votre
rôle. Après, c'est faire des pratiques, et encore, hein, pour faire des pratiques.
Ce moine, tu as dû passer des heures et des heures à pratiquer, hein, quand on est moine, on a quand même beaucoup de temps.
Oui, oui, mais alors pour aider quelqu'un. Pour guider quelqu'un.
Critique, quoi.
Ouais. Mais alors,
ça veut dire que l'esprit, là, il contrôle.
Pour guider quelqu'un au moment de la mort, effectivement, faire des souhaits, faire la pratique de powa, etc., bah, effectivement, les gens qui ont reçu. Les instructions de Torah, moi je l'ai reçu, etc. Ça peut être utile à personne si la personne est a une connexion avec cette pratique-là. Ouais. Si la personne n'a pas de connexion avec cette pratique-là, pour wow, à moins d'être vraiment un grand pratiquant comme la Matempa Gyantso, etc. Ou voilà, là, il peut carrément un truc.
Sans parler vraiment de pratique, mais de rassurer ou de la remettre un peu sur des.
Ouais. Non, mais en tout cas, tu as raison pour dire que c'est des conditions.
C'est quand même assez souvent que. Moi, je pense qu'on contrôle quand même plus grand-chose et qu'on perd plus, même si on est un grand pratiquant. À la fois que ce moine qui trouvez plus un seul mantra, moi je trouve quand même qu'on doit, en général je pense qu'on doit être bien perdu. Je pense que c'est pas mal qu'il y ait quelqu'un à côté qui, si on a le temps de mettre ça en place, mais qui canalise peut-être un peu cet esprit qui vient.
Si tu peux raconter une histoire,
je pense que la personne doit pouvoir finir, désorienter, etc.
Comme dit Patrick, en fait, ce qui est décrit, c'est des conditions idéales. Parce que on meurt dans un accident de voiture. Hein, ça se passe comme ça.
Un petit chien brésil. Juste avant le grand
spectacle. Mais on aura peut-être. C'est pour ça, d'où l'intérêt d'avoir préparé son testament. Parce que dans ce cas de figure, il y aura quand même peut-être des instructions qui vont.
Il y a l'histoire zen que beaucoup doivent connaître quand même, qu'on raconte. C'est le bus qui dévale la colline, et puis d'un seul coup, le chauffeur se rend compte que les freins ne fonctionnent plus. C'est la panique complète dans le bus. Il y a un moine dedans, un moine zen, tu la connais ?
Non.
Et alors, c'est la panique, tout le monde hurle, tout ça. Et puis, à un moment, le bus, par miracle, remonte une pente, donc ne va pas dans le précipice. Et alors là, tout le monde paniqué se tourne vers le moine zen. Comment avez-vous fait pour ne pas paniquer, pour garder votre sang-froid? Quel est votre secret? Et il dit, moi, j'ai guetté le meilleur moment pour sauter par la fenêtre.
Ah, je la garde. En tout cas, ne dispense pas de pratiquer, de se préparer. Comme dit Mathieu Ricard, dans le bouddhisme, on se prépare au pire tout en envisageant. Non, on envisage le pire tout. Non. Je sais plus. On envisage le pire tout en espérant le meilleur. On envisage le pire tout en espérant le meilleur. Voilà, c'est un peu ça. Si on n'aura peut-être pas les conditions, il y aura peut-être pas, on sera peut-être pas conscient, on sera peut-être pas à même de dire nos dernières volontés, on sera peut-être pas capable, on n'aura peut-être pas de nos proches à nos chevets ou des pratiquants à notre chevet, etc. Voilà. Mais on espère réunir tout ça, et en tout cas, l'idée c'est quand même de se préparer à partir dans les meilleures conditions, et donc du coup, ça nous. On est responsable de ça, quoi. Mais effectivement, si on ne peut pas. Peut-être rien va nous venir à l'esprit. Comme. Patrick, certains, alors qu'on a récité le mantra de Chenrezig toute sa vie, au moment de mourir, on en est même à l'oublier, quoi. Au même IPM, tellement l'esprit est perturbé. Ce qui est important, c'est de garder un esprit confiant. Trouver, se dire que c'est ça qui est important. Que de toute façon, on est en train de partir, d'arriver à partir avec un esprit le plus confiant possible, le plus détendu possible.
Que tu penses que l'esprit est quand même conscient encore quelques moments après la mort de ce qui se passe, je dirais, de ce qui l'entoure.
Ça, il y a plein de témoignages, et le témoignage, en fait, en tout cas, personne n'est revenu, mais des témoignages, de mort imminente, il y en a plein, et puis il y a des choses dans lesquelles on retrouve beaucoup d'éléments similaires, et puis en même temps, des moments très, très différents. Il y a quelqu'un qui m'a raconté, c'était très. Ça m'a beaucoup marqué ce témoignage, quelqu'un qui est jeune en plus, qui a subi une grève de cœur récemment. Et elle m'a parlé de ses hallucinations. Elle était incapable de me dire, elle m'a dit que. De faire la différence entre qu'est-ce qui s'est réellement passé et elle, ce qu'elle a vécu. Elle a vécu qu'on l'avait emmenée à la morgue pour la découper en petits morceaux. C'est ça que son esprit a vécu. Parce que au moment de la greffe, en fait, il avait plein d'hallucinations qui sont arrivées. Et puis elle m'a raconté qu'elle a parlé à des morts, qu'elle a parlé à. Elle a vu toutes ces choses-là. C'est fabrication de son esprit. Et puis en même temps, bon, bah, je ne connais pas ce qui est réellement fait. Non, n'empêche qu'elle s'est réveillée sur son lit d'hôpital avec son nouveau cœur, etc. Mais entre-temps, elle a vécu des trucs complètement dingues. Qu'est-ce que fabrique l'esprit, ouais. Bah, on le voit, hein, comment on peut être happé par nos rêves. Aussi. On n'a pas d'existence, et bon, je ne sais pas. Mais on voit comment on réagit au cauchemar, comment on réagit au rêve. Pourtant, c'est des fabrications de notre esprit. Bah, notre pratique aussi, elle peut nous amener à avoir plus de lucidité par rapport à nos rêves, par rapport à ce que vit notre esprit dans le sommeil. En tout cas, pour s'entraîner aussi, comme on a vu, mourir en tonglen, hein, sur le flanc, c'est aussi une méthode pour... on peut s'entraîner à s'endormir comme ça, pour se préparer justement. Jusqu'au moment de l'endormissement, essayer d'accompagner d'accompagner la conscience jusqu'au plus loin possible avant de s'endormir.
Je voulais te demander, tu disais qu'il était bon de faire des souhaits tout au long de la journée, même quand on est vivant. Mais est-ce que la prière de dédicace peut servir aussi de souhait.
Complètement.
Quand on la récite à tout propos dans la journée,
c'est exactement
le
sens
de
la dédicace.
Oui.
Quand on fait la dédicace à la fin de l'enseignement,
on s'entraîne tellement à la dire quand on fait des pratiques, c'est celle qui vient le plus facilement, je pense.
Exactement, ouais, c'est ça.
Et est-ce qu'on peut
ça rentre dans la force des graines blanches, c'est-à-dire on a passé peut-être un moment à parler du dharma, peut-être qu'il y a quelque chose qui est de positif qui est né en qui s'est installé en nous, etc. Et ben on n'en reste pas là au moment de la dédicace, on dit s'il y a quelque chose aussi, puisse cela être une portée illimitée pour tous les êtres. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'en fait on fait on récite une formule, mais on pourrait faire la dédicace de manière informelle, c'est-à-dire on sonne juste les trois coups de gong. On imagine que nos prières accompagnent le son qui se répand dans l'espace. C'est vraiment le sens de ça, quoi. On donne une portée illimitée avec notre esprit. Et on peut faire ça, ouais, tout au long de la journée. On fait la dédicace, du coup ? On la fait de manière non formelle. On imagine juste que ça... On laisse le son remplir l'espace. Merci.